Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Vassivière, ici Émilie pour la 13e émission
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour tous ceux qui s'occupent d'enfants, qui s'y préparent, qui en rêvent un jour d'avoir des enfants, des petits-enfants, des élèves à l'école, je ne sais pas. Une émission qui peut aussi vous donner envie d'avoir des enfants, c'est possible. Voilà, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais continuer sur les bébés. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez trouver dans la 11e émission qui est, j'espère, en ligne. Vous pourrez trouver une émission spéciale sur les pleurs des bébés. Et oui, ces fameux pleurs. Comment on fait pour ne pas abandonner bébé, mais être dans une juste approche, un accompagnement qui puisse vraiment permettre à bébé d'exprimer tout son besoin de décharge émotive. Comment faire pour reconnaître les différents pleurs et comment les accompagner au plus juste pour une bonne construction de bébé et une vie de famille plus épanouie. Ça, c'est dans la 11e. Dans la 12e émission, je vous ai parlé du cododo, du portage et de la motricité libre, avec en lien sous l'émission, dans le replay, tout ce qu'il faut pour aller lire sur la motricité libre par Amy Picler. Voilà. Alors, je vous en dis quelques mots de plus sur cette motricité libre. Je disais donc, vous aviez compris, j'espère, que ce qui était important surtout, c'est de ne pas nuire au développement de l'enfant. Déjà, donc ne pas nuire en ne le mettant pas dans une position qu'il n'a pas encore acquise, ne pas nuire en l'empêchant de bouger ou en le mettant sur des tapis trop mous, des coussins, où il n'y aura pas de réaction à son geste. Et après, il s'agit aussi de favoriser. Alors favoriser en le mettant dans un espace sécurisant, favoriser également par tout l'amour, le soutien émotionnel que l'on va lui apporter, et aussi favoriser en mettant à sa portée des objets qui vont correspondre à ses goûts, à ses intérêts du moment, à ce qu'il est en train de développer. Voilà tout ce qu'on a à faire, aménager l'espace et être là avec douceur. Amy Picler nous dit aussi qu'il est intéressant qu'il y ait différents espaces pour les différentes activités. C'est rigolo, c'est ce qu'on retrouve dans une école du troisième type, différents espaces en fonction de ce qu'on y fait. Eh bien, il y a l'espace où bébé va jouer justement pour l'espace des activités. Donc souvent, ça se passe dans le salon en fait, hein, à l'endroit où nous on vit et lui, il fait ses expériences. Il y a un espace pour être changé, pour les soins, qui est en général plutôt dans la salle de bain, mais qui peut aussi être ailleurs, et un espace pour le repos et le sommeil. Voilà. Et elle dit qu'il est intéressant pour l'enfant que ces trois espaces soient distincts. N'hésitez pas à aller approfondir sur le net ou avec les livres d'Amy Picler sur cette motricité libre. Si vous n'avez qu'une chose à retenir, n'asseyez pas un bébé qui ne sait pas s'asseoir, ne mettez pas debout un bébé qui ne sait pas se mettre debout et arrêtez de vouloir le faire marcher. Il marchera quand il marchera de lui-même. Il va développer ses chaînes motrices et on dessert le bébé en voulant le faire marcher avant qu'il ne marche. Voilà, chaque chose en son temps. Ce n'est pas parce qu'il s'est marché à 10 mois qu'il devient un grand coureur et ce n'est pas parce qu'il ne s'est marché qu'à 18 mois qu'il sera empoté. Non, chacun son rythme. Mais bon, d'expérience quand même, quand on est avec la motricité libre, il ne traîne pas trop, hein, à savoir marcher. Alors, je vais ajouter un autre sujet dont j'ai un petit peu aussi parlé la dernière fois, qui est l'hygiène naturelle infantile. Alors que j'étais enceinte de mon premier enfant en 2014, un ami me parle de l'hygiène naturelle infantile. Alors que je lui parlais que j'allais sans doute aller récupérer des couches lavables, et ben oui, quand on est une bonne écolo, on fait attention et on va pas faire un gros tas de poubelles avec tout plein de couches jetables. On va plutôt utiliser plein d'eau et d'électricité pour faire tourner la machine et surtout plein de temps pour faire sécher tout ça. Bref, vraiment une passion réelle pour les couches lavables, comme vous le sentez. Donc, on avait choisi les couches lavables, on avait acheté ça d'occasion, et il me dit, mais tu sais, c'est pas obligatoire les couches. Comment ça, c'est pas obligatoire les couches? Bizarre. Mais il va bien faire pipi et caca, ce bébé. Oui. Et là, il me parle d'un livre dont j'ai oublié le nom. Il y a des petits trucs que j'étais pas trop d'accord. Ah oui, ça y est, « Sans couches, c'est la liberté », voilà. Il me le prête et cette maman raconte que, on peut faire sans couches. Il est possible de communiquer avec son enfant sur ses besoins d'élimination. Alors ça, c'est curieux, j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, d'un côté, j'avais jamais trop entendu parler de bébé hein, non plus. Il n'y a pas trop l'école des parents pour ça, c'est vrai. Et puis, ben, étant donné que ben, ma mère, ma grand-mère, enfin voilà, ça s'est perdu, hein, personne ne faisait ça. Donc voilà, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait pour moi. En anglais, je crois qu'ils appellent ça la communication sur l'élimination. Donc en résumé, je découvre ça, une nouvelle connaissance. L'enfant communique quand il a envie de faire pipi et caca, et ce, à partir de sa naissance. Après, eh bien, si le parent, comment dire, une fois qu'il a compris ça, il ne veut pas le nier, il ne veut pas faire l'autruche, eh bien, il ne reste plus qu'à décoder. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il exprime pour dire qu'il veut faire pipi ou caca? Eh bien, ça se décode en vrai. Hein. Il y a des petites choses, il y a les rougeurs sur le visage, il y a une certaine agitation, il y a des petits bruits. Bon, et même si le caca, vous l'aviez déjà vu ça, hein, où il va faire caca, là ça se voit. Alors pas toujours, mais quand même. Et les moments aussi, voilà. Combien de temps après la tétée, pendant la tétée Voilà, donc on peut se mettre à tenir un petit carnet de bord. Donc quand est-ce qu'il fait pipi, quand est-ce qu'il fait caca, pour observer une certaine régularité. Et vraiment observer le bébé dans toutes ses expressions. Parce que oui, en effet, il le montre. Il le montre, bah oui, il n'a pas la parole bien sûr, mais il montre qu'il a besoin de faire pipi et qu'il a besoin de faire caca. Et d'ailleurs, une des frustrations du bébé, c'est ça, c'est « Ah ben ça marche pas !» Ah ben mes parents ils comprennent pas quand je vais faire pipi et caca, ils me mettent un truc dessus et je me retrouve dans mon pipi et mon caca. Alors que, ben non en fait, je suis conscient que je vais faire pipi et caca et j'exprime, ça peut se voir sur moi. Alors évidemment tout ça n'est pas conscient et votre enfant ne va pas vous faire un procès parce que vous lui avez mis des couches, on s'entend bien. Voilà. Donc le copain il me dit ça, donc moi j'ai accouché le 19 décembre, c'est pas trop une période où tu mets ton bébé à poil et tu te dis que ça va, hein, il fait un peu frais. Et bah, j'avais prévu bah, tout plein de couches lavables comme j'ai dit et puis les habits qui vont par-dessus. Sauf que quand on passe en hygiène naturelle infantile, donc c'est le petit nom savant HNI pour dire qu'on va pas mettre de couches et surtout observer quand est-ce que bébé veut faire pipi ou caca pour pouvoir lui proposer dans un petit pot. Eh bien, il y a tout un matériel qui va bien avec. Bon, bah déjà, le petit pot avec sa poignée et le petit, comment dire, le petit rebord en coton bio, bien sûr, que l'on va remettre par-dessus. Et on en a de rechange parce que des fois, il y a des pipis, même des cacas qui vont dessus. Et puis, il existe ces choses, oh, magnifiques. Si vous aviez vu celles qu'on a mis à notre deuxième, parce que pour le deuxième, on l'a fait à fond, eh bien, des jambières. Elles étaient roses avec des tulipes. C'était en solde, je les avais achetées comme ça. Bon, le pauvre enfant. Et on a évité les photos avec ça. Donc on peut lui mettre des jambières plutôt que des pantalons. Et puis on peut lui mettre une mini couche, en fait, une couche à chenille. C'est vraiment un morceau de tissu avec un côté étanche et ça se tient par un élastique. Donc c'est hyper vite enlevé. Hop, il y a juste à le défaire l'élastique. Et puis hyper vite remis. Et on peut faire ça aussi bah, juste avec des langes d'ailleurs si on veut. Là on verra que le pipi il arrive, ça sera tout mouillé. Et voilà, donc c'est important de bien en fait, s'équiper quand on a décidé de faire ça. Enfin, moi, j'ai vu la différence. Avec le premier, on n'était pas équipé, on était équipé en mode couche lavable. Donc, ah tiens, je crois qu'il veut faire pipi. Alors, attends, je lui enlève son pantalon, son body, sa couche lavable avec la partie extérieure, l'intérieur. Bon, plein de trucs à faire. Et puis, ben, ça pouvait marcher quand même. Hein. C'est juste que ça demandait vraiment beaucoup de manutention et de logistique. Alors qu'avec le deuxième, eh bien, vu qu'on a vu que ça marchait, puisque jusqu'à ça a marché, on a eu les pipis jusqu'à ce qu'ils commencent à marcher en fait dans le 12e mois. Et les cacas, bah, tout le temps en fait. Hein, et nos deux fils ont très très rarement fait caca dans une couche, puisqu'on a vu quand est-ce qu'ils voulaient faire caca, ils faisaient caca dans le petit pot. Et donc on a vu que ça marchait, je disais, et donc on s'est équipé. Voilà, en cadeau de naissance cette fois-ci, on n'est pas foufou, on se fait offrir les mini-couches, les élastiques, le petit pot avec le petit truc qui va autour, qui va bien, les t-shirts longs exprès qui vont venir se mettre sur l'élastique là et couvrir. Alors voilà, l'enfant apprend à avoir un petit peu froid en haut des cuisses, je ne vous le cache pas. Et aussi, on apprend à pas faire de photos, hein, comme je disais, parce que bon, on n'est pas obligé d'acheter des trucs aussi moches que ce que j'avais acheté après. Voilà. Il y a le site, j'espère qu'il existe toujours, je ne suis pas allée vérifier avant de vous le dire, EcoPichoun, où j'achetais tout ça. Et donc, une fois qu'on est muni, qu'on sait que le bébé, il peut communiquer, eh ben, il ne reste plus qu'à rentrer eh ben, dans son langage hein, et vraiment observer. Et ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une authenticité qui se crée dans la relation. Alors, vous pouvez, là, en m'entendant, on peut vous dire... Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, mais moi j'ai pas le temps, hein. Ça sera couche jetable hein, ou couche lavable si je veux me donner bonne conscience écologique. Mais ah non, ne pas lui mettre de couche ou lui mettre des petits trucs comme ça et être à l'écoute tout le temps s'il veut faire pipi ou caca. Ah non, laisse tomber, la corvée. Mais moi je l'ai pas du tout vécu comme ça. Je l'ai vraiment vécu au contraire comme une relation authentique avec l'enfant, être vraiment à l'écoute de son besoin, vraiment le respecter. Voilà. Donc riche de cette première expérience avec le premier, avec le deuxième on y a été à fond et je vous assure que ça marche, mais en même temps aussi, eh ben oui, il y a eu des pipis sur le tapis, alors il a un peu plastifié le tapis, ça va, il y a eu des pipis qui sont passés à travers quand il était en portage, oui, il faut aussi être prêt à ça, hein. Mais bon, avec le chien, vous le faites bien, on peut le faire aussi avec bébé. Et puis, il y a les pipis, voilà. Après, les cacas, il y en a eu très, très, très peu à côté, vraiment, vraiment, parce que c'est assez facile hein, de comprendre, en tout cas pour les bébés allaités, quand est-ce que ça vient. Donc, non seulement c'est possible, mais ça peut même créer vraiment une authenticité et une connexion magnifique entre l'enfant et ses parents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand il y a un grand frère ou une grande sœur, eh bien, c'est le grand frère ou la grande sœur qui peut aussi dire « Ah oui, là, il a envie de faire pipi, il a envie de faire caca. » Et nous, ça marchait. Hein, notre aîné, souvent, il pouvait dire « Ah, il veut faire pipi. » Et c'était vrai. Et on peut ajouter à ça quelques signes, vous savez, c'est à la mode et c'est super, hein, j'encourage ça. Le langage des signes, hein, donc la langue des sourds et muets qu'on peut adapter, qu'on peut faire avec les bébés. Et donc il y a le signe pipi, caca, peau, qu'on peut apprendre et au bout d'un moment, l'enfant, même avant de savoir parler, il va pouvoir faire le signe. Oui, vraiment. Et Élisée, notre deuxième, l'a fait, hein, signé caca pour montrer qu'il voulait faire caca. Je ne sais plus à quel âge, mais avant de savoir dire ces mots-là. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant et possible, voilà, ça demande de s'équiper, ça demande d'être prêt à avoir quelques pipis et caca, bah oui, sur des habits dans la maison, et puis ça demande bah voilà, d'être attentif à son bébé, mais bon, si on a décidé de l'avoir, c'est quand même chouette de se mettre attentive à lui. Si vous avez des questions là-dessus parce que vous l'avez pratiqué, ça n'a pas trop marché, ou parce que bah, vous êtes enceinte et ça va venir, bah, vous pouvez m'envoyer vos questions à emilie9@posteo.net et j'y répondrai dans d'autres émissions. Mais comme vous l'avez senti, j'ai un réel enthousiasme pour cette hygiène naturelle infantile que je trouve vraiment passionnant. Voilà, voilà, tiens, j'avais un petit son pour dire virgule. Allez, promis, bientôt je prendrai un temps pour rendre mes émissions plus radiophoniques avec des jingles, des vrais sons, des petits points et tout, hein, parce que pour l'instant je vous raconte plein de trucs, mais bon, je le concède, c'est pas hyper radiophonique tout ça. Alors ensuite, de quoi je vous parle? Je vous parle de la DME. DME, difficile manière d'éduquer? Non, 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 c'est pas ça. DME, dragon méticulé ébouriffé? Non plus. Allez, j'arrête là, c'est ok. Non, la diversification menée par l'enfant. Bah oui, il va manger au bout d'un moment cet enfant, hein? Bah oui. Et il va manger, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner un signe qu'il est prêt à manger. Bon, bah il y a les dents, hein, bien sûr, qui vont arriver. Et il va pouvoir donner un signe hein, en pouvant attraper déjà de la nourriture quand nous on est en train de manger. Alors je sais que ce qui est à la mode, c'est de suivre les courbes et de commencer à donner ça, puis ça, puis ça, de bien écouter le pédiatre, dans quel ordre il dit, à quel âge, etc. Mais on peut aussi se mettre à l'écoute de l'enfant. Hein. Est-ce qu'il me montre qu'il a faim? Alors, pour le premier, j'étais peut-être pas... j'étais peut-être pas très attentive et je lui ai pas donné à manger avant 6 mois et... C'est une copine qui a commencé à lui donner un peu de compote et on a vu que bah oui, il était prêt à manger. Alors là, pareil, j'ai entendu parler de diversification menée par l'enfant alors que bah, il était déjà à l'âge d'être diversifié, donc je n'étais pas très au point. Mais j'avais compris que ce n'était pas obligé de donner des purées et des compotes à son bébé. On n'est pas obligé de tout broyer. Il peut aussi apprendre à manger des vrais aliments en les prenant dans sa main et un par un. Voilà. Hein, ce n'est pas un mix, il mange une banane. Bah oui, il a une banane dans la main et il apprend à la manger. Donc super découverte aussi, ah c'est pas obligé les purées et les compotes. Mais bon quand même ça me faisait un peu peur parce que j'ai compris que ben, y avait des morceaux et qu'il y avait le réflexe de régurgitation hein, qui s'installait, donc le cœur là qui arrive et qui ramène les morceaux qui étaient trop gros, qui n'étaient pas bien passés. Et ça m'inquiétait un petit peu quand même, donc j'avais entendu que c'était possible, mais je n'avais pas trop fait, jusqu'au jour où j'ai cassé le pot de la compote que je venais de faire. Aïe, 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 aïe. Et là, ça m'a fait dire, ah non, mais quel bazar quand même, ce temps que ça prend de faire ses purées, ses compotes. En plus, il n'était pas question pour moi d'en acheter des toutes faites. Je faisais tout avec des fruits et des légumes frais. Waouh. Allez, je vais me mettre sur internet et je vais lire ce que c'est vraiment que cette DME. C'est ce que j'ai fait et je m'y suis mise. Et vraiment, j'ai pas regretté. Trouvé ça aussi formidable. Je suis autant enthousiaste avec la DME qu'avec la HNI. Donc l'idée, c'est... déjà, on va observer qu'il est prêt à manger. Donc là, avec le deuxième, on a bien vu. Un jour, il m'a pris une banane des mains. Il avait 4 mois et demi. Sa première dent avait déjà percé. Il m'a pris une banane des mains. Il l'a mis à la bouche. Il a commencé à manger. C'était un signe très net qu'il était prêt. Donc, comment j'ai fait? Je lui ai donné des bouts de banane. Enfin, la banane, en fait, il la prend. Alors, au début, c'est j'apprends à viser hein, pour que la main, elle arrive à bien choper la banane et à l'amener à la bouche. Je te raconte pas déjà le truc. Là, motricité libre, on est en train de bien apprendre la motricité fine. Hein. Donc, il attrape le fruit, la banane en l'occurrence, il la met à la bouche et après, il commence à manger, à mâchouiller de lui-même. Et ça se passe, oui ça se passe. Et en effet, il y a ce réflexe de régurgitation qui peut arriver quand le morceau est trop gros. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je vous dirais, non, ne commencez pas avec des pommes, ne commencez pas avec des poires, commencez avec des bananes, hein, ou des petits bouts d'avocat aussi. On coupe en frites, donc en forme de frites, mais ça peut être aussi de la pomme de terre, de la patate douce. Voilà, il faut trouver les fruits et les légumes qui peuvent avoir cette forme allongée, que l'enfant puisse prendre dans la main, porter à la bouche, et qui ne vont pas être dangereux. Qui vont pouvoir se mâcher tranquillement, en toute sérénité pour papa et maman. Hein. Et donc, on l'a compris, on l'a fait, et ce qui est super, c'est qu'il construit vraiment ce réflexe de régurgitation, et qu'au final, j'ai compris que c'était moins dangereux que les purées et les compotes qui peuvent être dangereuses si on met des morceaux dedans. Voilà, si on a l'habitude de donner de la purée ou de la compote, et qu'on broie moins et qu'il y a des morceaux, c'est là que c'est dangereux. Parce que l'enfant, il a appris à manger avec le liquide, quoi, purée compote, il n'a pas ce réflexe de régurgitation d'installer. Et là, on lui met des morceaux, en plus au milieu du liquide, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc ça n'empêche pas hein, qu'après, nous on fait des smoothies le matin, et on lui mettait un smoothie aussi dans le biberon, et il prenait son smoothie aussi, c'est possible, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne dis pas ne manger absolument aucune purée, aucune compote, mais sachez que c'est possible, on n'est pas obligé de leur donner liquide, ils peuvent manger solide, du moment que ce soit du solide mou qu'ils gardent en sécurité. Alors il y a des petites choses aussi où on peut être tenté, mais c'est pas forcément une très bonne idée, c'est le brocoli, parce que ça fait plein de petits bouts, et ça peut se coincer un peu, rester sur le palais, tout ça, c'est pas agréable pour lui. Si ça vous intéresse, vous faites comme moi, vous allez fouiller sur internet, diversification menée par l'enfant, si possible, à faire avant que bébé naisse, hein, c'est quand même mieux, ou avant qu'il soit prêt à manger. Alors moi, je vous ai dit, le deuxième a mangé vers 4 mois et demi, mais alors c'est pas du tout une vérité, hein, c'est pas parce que lui, il a fait ça que tous les bébés doivent manger à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'il l'a fait avec une banane que tout le monde doit commencer avec de la banane. Hein. Allez, au passage, je vous donne un petit truc et astuce. Si on allaite l'enfant et qu'on n'a pas envie de lui donner de lait animal, eh bien, il y a une recette à connaître, c'est banane avocat eau de coco. Et ça, je l'ai déjà utilisé parce que j'ai eu la grippe alors que mon bébé, mon deuxième, avait 4 mois. Et là, le lait baissé, j'avais pas faim, je mangeais pas assez. Et je me suis rappelée de cette recette-là donnée par Anthony William, hein, qui est celui que je suis au niveau alimentation. Et ça a bien marché. Voilà, il l'a tout à fait bien digéré, toléré, alors qu'il n'avait reçu que mon lait jusque-là. Et au niveau équilibre, c'est très bon. Au niveau des nutriments, c'est très bon. Voilà. Donc j'ai dit banane, avocat et coco, avec pas beaucoup d'avocat, hein, parce qu'en fait, le lait maternel, il est peu gras. Hein. Il est surtout sucré. Donc là, je vous ai parlé de l'hygiène naturelle infantile, de la diversification menée par l'enfant. Et la dernière fois, le cododo, le portage et la motricité libre. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'allaitement? Bon, il faudrait vraiment passer du temps et ce serait mieux d'avoir des questions avec. Bon, là, je vais juste dire quelques mots sur l'allaitement. L'allaitement, c'est merveilleux. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Non, mais je vais en dire un peu plus. Allez. Alors déjà, pas de culpabilité si on l'a pas fait, pas de culpabilité si on n'a pas réussi. La culpabilité ne va jamais servir personne, ni l'enfant, ni nous. Hein, si quelque chose nous met mal, c'est intéressant d'aller voir comment on peut progresser, faire mieux, mais ne pas culpabiliser. Voilà, l'allaitement, c'est super. Et l'allaitement, c'est pas obligé de faire mal, hein, déjà, faut penser que ça, c'est une, comment dire, une pensée, une croyance hein, qu'on peut gommer. Hein. Ça peut tout à fait ne pas faire mal hein, d'allaiter. J'ai allaité en tout presque 4 ans mes deux enfants et à aucun moment ça ne m'a fait mal, vraiment. Donc j'avais un petit peu de lanoline hein, pour mettre sur le téton et voilà, c'est possible, ça peut se passer sans faire mal. Alors bonne préparation avant, ne pas mettre de soutif, hein, ça aide ça aussi. Et puis aussi, alors oui, je me rappelle, on me disait... non mais peut-être que tu auras plus de lait, hein. Tu sais moi j'avais plus de lait à 3 mois, hein. Il avait 3 mois j'avais plus de lait, bon, c'est quoi ce truc? Si on mange bien des fruits, des légumes, des pommes de terre, des patates douces, du millet, il n'y a aucune raison pour ne pas avoir de lait, hein. Non. La machine est bien faite, la nature est bien faite, heureusement on peut avoir tout le lait dont notre bébé a besoin. Voilà, donc après, il y a un concept très intéressant qui s'appelle l'allaitement à la demande, hein, ce que j'ai pratiqué. Alors au début, je l'avais mal compris, et ça je vous en ai déjà parlé, je pense, quand je vous ai parlé des pleurs dans la 11e. J'avais compris que dès que bébé manifestait quelque chose, ça voulait dire qu'il voulait téter, et donc il fallait que je lui donne. Que c'était une réponse à tout, tout le temps, voilà. Bah non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Heureusement, la sage-femme m'avait donné quand même quelques indices. Alors déjà, ça je le vois souvent, la tétée, ça dure à peu près un quart d'heure, hein, 12, 15, allez, 20 minutes peut-être. Mais au bout d'un moment, il utilise votre sein comme téton, comme tétine. Hein. Et là, c'est plus juste, il a fini de téter. Donc si la tétée, elle dure trop longtemps, voilà, là, ça nous montre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si elle ne dure pas longtemps du tout aussi, à mon sens... Et il y a aussi quelque chose qui ne va pas. La tétée, c'est bien qu'elle dure une dizaine de minutes pour avoir les différentes teneurs en sucre et en graisse qu'il y a dans le lait. Et c'est, comme ça, c'est beaucoup plus facile à digérer d'ailleurs. Si elle dure que 2 minutes et agitée, c'est qu'il y a un besoin, en fait, probablement, il y a un autre besoin, hein, ça peut être le besoin de pleurer, mais ce n'était pas un besoin de tétée. Et aussi, on va être attentive à tout ce qui est espacement. Donc, on peut être à la fois dans l'allaitement à la demande, voilà, ça veut dire qu'on va pas être dans l'allaitement, tiens, ça fait pile 3 heures, il faut que je le réveille pour qu'il boive, voilà. Ou, ben non, là, il a vraiment l'air d'avoir faim, mais non, il faut absolument qu'il attende, hein, ça fait pas 3 heures. Donc, il s'agit de, ben non, d'être à l'écoute hein, du besoin de bébé. Mais ça veut pas dire toujours dégainer le sein, non. On a aussi un œil sur la montre, parce que ça nous donne des indices. Les tétées, elles vont aller en s'espaçant, en dehors des pics de croissance, bien sûr, qui peuvent être des moments vraiment d'incertitude, de doute. Mais sinon, les tétées, elles vont en s'espaçant. Hein. Si à 3 mois, il y a toujours autant de tétées, ou même les écarts ne se sont pas espacés, alors il faut aller revoir le besoin de pleurer. Vraiment, vraiment. Et les tétées la nuit aussi vont s'espacer. Et jusqu'à aller à un moment où, alors, où il n'y en aura plus, hein, ça s'accompagne, mais bon, ça demanderait de rentrer plus dans les détails. Donc en gros, ce que j'ai envie de vous dire sur l'allaitement, c'est que déjà bah, ça peut tout à fait être merveilleux, c'est important d'enlever tout ce qu'on peut entendre là, toutes ces croyances erronées, on ne va pas y arriver, on ne va pas avoir de lait, son lait n'est pas assez bon, son bébé ne va pas assez grandir, toutes ces choses-là, hein. Et puis, oui, on peut être dans l'allaitement à la demande en étant attentif aux besoins du bébé et on a des indices pour ça. La durée de la tétée, l'espacement entre les tétées, est-ce que bébé est agité ou pas quand il tète. Voilà, voilà. Il y a un livre de Ina May Gaskin qui s'appelle sur l'allaitement. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais il est que sur l'allaitement. Alors moi j'avais eu la chance de ne pas entendre de trop mauvaises idées. Je ne m'étais pas dit que l'allaitement ça allait être compliqué, mais je me rends compte en parlant avec des mamans, des futures mamans, que malheureusement c'est un peu installé. Non, c'est pas du tout obligé d'être compliqué. Allez, j'ai beaucoup parlé.
Musique maintenant.
Je continue à vous chercher des chansons avec des mots en papa ou maman. Alors cette fois-ci j'ai trouvé papa. Et je vous rassure, bah, je ne vais pas vous mettre Stomy Bugsy, mon papa, moi, est un gangster. Bah non, je l'ai vu, mais non, je vous ai mis un autre, un classique. Allez, c'est parti.
Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise et le voilà repartir.
parti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant
qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.
Et c'est ainsi que autant à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père.
Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.
Et vous avez reconnu Joe Dassin, le chemin de papa. Je vous ai vu en train de dandiner dans votre voiture ou dans votre cuisine. Alors, vous êtes toujours sur Radio Vassivière, à l'écoute de...
Élève-toi.
Avec les enfants.
C'est la 13e, c'est Émilie. Je vous ai parlé des bébés, je vous ai raconté plein de trucs. Et je vais vous dire un...
Un livre pour les parents.
Un livre pour les parents, je ne vous ai pas parlé de massage. Eh bien, je vous invite à aller voir le livre Chantala de Frédéric Le Boyer sur le massage des bébés. Passionnant. Eh bien, je vais aussi vous lancer un...
Un défi pour les parents.
Et oui, je vous lance un défi. Le défi, c'est d'aller reconnaître à quel moment on s'est fait embrumer par une croyance sur les enfants. Parce que là, je vous en ai dit des croyances dans lesquelles je m'étais fait embrumer, comme beaucoup de monde. Hein. Il faut absolument des couches, hein, et puis il faut absolument manger des purées, des compotes. Eh bien, je vous invite à aller voir c'est quoi là les autres croyances là, qui se sont installées. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Hein, tiens, si je venais de questionner ça, bah tiens, ah, j'ai toujours cru ça sur les enfants, parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que la société raconte, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Allez, voilà mon défi. Alors, je termine en vous disant que si ça vous intéresse ce que je raconte sur les bébés, eh bien, sachez que je peux en faire aussi une conférence gesticulée. Alors, je dis gesticulée pour dire qu'elle est à moitié sérieuse, ma conférence, hein, que je vais bouger, que je vais rien vous raconter de savant du tout. Et cette conférence gesticulée sur les bébés, eh bien, je peux venir la faire pour vous, pour votre assos, dans votre endroit sympa. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne suite de journée à l'écoute de Radio Vassivière. J'espère que cette émission vous apporte quelque chose. D'ailleurs, si quelqu'un veut me faire un petit coucou, parce que c'est un petit peu bizarre ça quand même à la radio, hein, on parle dans son micro. Et puis, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui va nous écouter. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Tiens, parce que, est-ce que ça aide quelqu'un ce que je raconte? Ça m'intéresse de savoir. Allez, si vous voulez me faire un petit retour, emilie9@posteo.net. Et puis envoyez-moi vos questions, vraiment ça serait chouette. Au bout d'un moment, j'aurais peut-être plus rien à raconter, j'en doute un petit peu, mais on sait jamais si ça arrive. Et ben, je serais bien contente dans tous les cas de répondre à vos questions sur les enfants, quoi que vous viviez avec eux, et des questions voilà, sur les bébés, sur les enfants, sur les ados, sur l'école, sur tout plein de trucs comme ça. Allez, très bonne journée à vous et je vous dis à samedi prochain.